Il était une fois une émission de Cato Bell, Angélique Tasio.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. Il était une fois, ce soir nous accueillons le journaliste français Michel Cole. Bonsoir Michel Cole.
Bonsoir Angélique.
Vous venez de publier L'échappée belle du pape. Comment en êtes-vous arrivé à écrire un roman sur un pape?
Vous voyez, je souris parce que j'ai mis du temps pour y arriver, parce que longtemps j'ai hésité à écrire un roman. Je suis un grand lecteur, mais de romans aussi. Mais pour moi, le roman, c'est Balzac, c'est Victor Hugo, c'est voilà, des grands noms. Et c'est un style de littérature qui m'impressionne. Et donc, pendant très longtemps, j'ai reculé devant l'obstacle, comme un cheval, vous savez, qui a peur de ne pas le franchir. Et grâce à une éditrice chevronnée et aussi tenace, qui a patienté, ou qui s'est impatientée, disons plutôt pendant un an et demi, après j'ai succombé à sa demande, et donc j'y suis allé, et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai découvert un plaisir de l'écriture incroyable, incomparable. J'ai découvert la puissance de l'imaginaire, j'ai découvert la joie de l'écriture, surtout la liberté que peut-être je n'avais pas, que je n'ai pas quand j'écris des essais. C'est peut-être plus appel à la, je dirais, à la hiérarchie de la pensée, à la structuration. L'imaginaire vous fait sauter justement les obstacles, les barrières, et vous êtes emporté comme ça par une inspiration, par des personnages qui même, les personnages que vous avez créés, eh bien, même eux, de temps en temps, prennent leur propre liberté, vous emmènent dans des directions que vous n'avez pas prévues. C'est extraordinaire.
Alors c'est un gros changement pour vous, hein, puisque vous êtes journaliste et que vous avez notamment collaboré au magazine La Vie, au Pèlerin, à L'Express. Donc comment se lancer dans une œuvre de fiction alors que, a priori, c'était vraiment la vérité qui était votre Graal?
Non, je vous dis, j'ai vraiment été poussé par une éditrice. Et puis je crois que ça correspondait à un moment de ma vie où je viens de prendre ma retraite, même si c'est une retraite active. Je dis toujours, quand on est journaliste, on l'est jusqu'à la tombe. C'est plus fort que soi, c'est une passion d'un rapport au monde. Mais c'est vrai, le fait de me retrouver à la campagne, dans ma terre de jeunesse, en Picardie, dans une maison entourée de la nature, d'une rivière, enfin, je ne suis plus en banlieue parisienne, ça ouvre de nouveaux espaces, ça ouvre de nouvelles clairières. Et je pense que ça a contribué sans doute aussi à me lancer, sans trop de peur malgré tout, dans l'aventure du roman. Et je l'ai écrit... là, dans Picardie, et je dois dire que j'ai sans doute été inspiré aussi par cette verte vallée où j'habite et le réconfort de cette nature qui m'entoure.
Comment êtes-vous devenu journaliste vaticaniste?
Alors là, vraiment, par des circonstances tout à fait particulières, j'étais jeune journaliste, 24 ans, et j'ai été recruté par l'hebdomadaire La Vie à l'époque, les années 1980. Il se trouve que, quand j'y suis entré, un journaliste prenait une année sabbatique pour créer un nouveau journal. Voilà. Et donc on m'a proposé de le remplacer autant que je le pouvais. Je n'avais pas le choix, c'était l'information religieuse. Et je dois dire que, sur le coup, je me suis dit, bigre, comment vais-je faire? Parce que je suis chrétien, mais bon, voilà, j'ai pas une culture religieuse aussi considérable. Et j'ai appris sur le tas. J'ai eu des formateurs, un rédacteur en chef, qui m'a fait rencontrer aussi des penseurs, des théologiens, des ecclésiologues. Et je me suis formé sur le tas, et c'était passionnant. Et c'est vrai aussi que c'était la période où le pape s'appelait Jean-Paul II, et que moi qui n'avais jamais quitté mon pays, j'allais même dire ma région, j'ai pu prendre grâce au pape Jean-Paul II la première fois l'avion, donc mon baptême de l'air je lui dois, et je suis parti à sa suite, si je puis dire, en Amérique latine pendant 15 jours. Voilà, au Brésil, où j'ai fait une série de reportages avant l'arrivée du pape. Voilà, donc ça a été vraiment pour moi un moment de formation, de découverte, d'enthousiasme, c'est un mot important pour moi, qui vraiment, je dois beaucoup au journalisme, cette capacité d'émerveillement, d'enthousiasme, parce que vraiment j'ai été gâté par ma vie professionnelle.
Dans votre roman L'échappée belle du pape, il y a ce petit côté didactique hein, où vous expliquez certaines fonctions, par exemple un secrétaire d'État au Vatican. C'est important, ça, ce souci de transmettre.
Oui, c'est très important, d'autant plus qu'on a affaire aujourd'hui à une société, à un monde, en tout cas le monde occidental, qui a perdu l'alphabet religieux, et plus précisément catholique. Nous sommes dans des sociétés sécularisées. Je préfère dire inchrétienne, comme disait Charles Péguy, c'est-à-dire qu'on a perdu un peu la notion, les notions chrétiennes, même les plus élémentaires. Et c'est vrai que les institutions, notamment l'institution ecclésiale, catholique, n'est pas très connue. Hein. Alors, circulent du coup beaucoup d'informations erronées, fallacieuses, de caricatures. Et je considère, moi, que le rôle du journalisme, c'est aussi d'être pédagogue et de pouvoir être un agent culturel, d'une certaine manière, c'est-à-dire de permettre à ses compatriotes, à ses concitoyens, de mieux connaître les rouages d'une institution. Et c'est vrai que dans le roman, ça m'a plu aussi de permettre au lecteur, tout en se distrayant, de mieux comprendre, de mieux connaître les rouages de l'Église catholique, et notamment du Vatican.
Justement, parlons-en hein, du Vatican. Combien de personnes y travaillent-elles ?
Alors, sauf erreur de ma part, je pense qu'ils sont 3000, vous vous rendez compte ? Alors que la mairie de Paris, l'administration de la mairie de Paris, ils sont 50 000. Alors, quand on entend parfois dire le Vatican, c'est une énorme machine, un gros machin, voilà. Moi, je dis, attendez, vous savez combien ils sont ? Ils sont 3000 pour s'occuper de combien de milliards de catholiques ? Et puis, tous ces évêques, tous ces... Enfin, toute cette organisation incroyable, c'est une institution universelle. Regardez à l'ONU combien ils sont, je n'ai pas le chiffre, mais c'est énorme le nombre de fonctionnaires. Je trouve parfois qu'on est sévère avec le Vatican, avec l'administration. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais quand même, 3000 personnes y travaillent, un flux tendu en plus. Bon, le Vatican a connu des crises récemment, crise économique, crise sociale, il a fallu, le pape François a dû licencier. Donc, c'est une institution qui connaît aussi les vicissitudes de la vie économique que nous connaissons dans nos sociétés civiles. Donc, je trouve que, voilà, sans aucun doute, il y a des vices dans le fonctionnement, mais il y a aussi des vertus de la part de ceux qui y collaborent. Voilà, il faut faire la part des choses. Et voilà, donc, la Curie romaine mérite aussi d'avoir cet examen critique, comme toute autre administration. Voilà.
Dans votre roman « L'échappée belle du pape hein, », vous évoquez la sœur Joanne Beaudommage, qui est directrice de la communication au Vatican, et qui a connu une carrière fulgurante dans l'Église. Alors, est-ce que ce serait vraiment une entreprise comme les autres dans laquelle on peut faire carrière ?
Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont fait carrière dans la curie. Il y a eu des carrières exemplaires. Je pense, par exemple, il y a deux papes qui étaient des fonctionnaires de la curie romaine, qui sont devenus d'ailleurs voilà, papes. Je pense à Pacelli, qui est devenu Pie XI. Je pense à Montini, qui est devenu Paul VI. Il y en a même un qui est saint. Je veux dire, ça veut dire que, bon, on peut faire une carrière et en même temps être un homme digne, respectable et avoir assumé ses fonctions avec les qualités requises. Alors après, vous avez les carriéristes. Alors, souvent, quand on dit carriériste, on pense à ceux qui ont des dents qui rayent le parquet, hein, c'est ça. Alors oui, il y en a, mais il n'y a pas besoin d'aller à Rome hein, pour voir des carriéristes. Je pense que dans les diocèses, voilà, partout, il y a des carriéristes. Ça fait partie de la nature humaine. Moi, je suis plus sensible à celui qui vit bien sa fonction, quelle qu'elle soit, et qui le vit dans l'humilité. J'aime beaucoup cette expression du don de soi par l'effacement. C'est quelque chose que... Et ça, on le trouve dans la vie civile, dans la vie religieuse. Et je pense que ce sont souvent ces adeptes de cette humilité, finalement, qui font du bon travail. Parce qu'ils ne réclament pas plus que leur dû.
Dans ce roman L'échappée belle du pape, hein, il y a un journaliste qui s'appelle Max Gerber, qui est, et je vous cite, le doyen des journalistes accrédités près le Saint-Siège. Il a connu 6 papes, c'est une encyclopédie sur l'histoire vaticane. Et en vous entendant, Michel Cole, on ne peut s'empêcher de faire un petit parallèle avec votre carrière à vous.
Oh là là, non, je ne pensais pas à moi, hein, en portraituré ce personnage. Non, mais c'est un personnage qui m'a été inspiré par quelqu'un qui a vraiment vécu, existé, que j'ai connu, un grand journaliste qui s'appelait Max Bergère, dont vous voyez, voilà, qui était un grand vaticaniste. Et quand je suis arrivé à Rome, tout jeune, très impressionné par cette salle de presse, avec tous ces journalistes internationaux qui étaient là, dont certains avaient vécu le concile, vous imaginez, pour moi, c'est la timidité que cela pouvait m'inspirer de me retrouver devant des gens qui avaient couvert cet événement incroyable qu'a été le concile. Et Max Gerber a été un de ceux qui, d'une certaine manière, m'ont bien accueilli dans cet aéropage, et puis qui ont pris du temps pour me raconter des histoires sur comment s'était passé le concile, sur des anecdotes aussi, et qui m'ont, d'une certaine manière, mis le pied à l'étrier de ce qu'on appelle le vaticanisme, être vaticaniste. Et j'ai voulu lui rendre hommage, et en même temps, la façon dont je le décris me semble correspondre à ce qu'il était, un homme d'une élégance raffiné, voilà, moi je suis sensible aussi à ça, parce que la manière de se présenter aux autres, c'est une manière aussi de les respecter. Et voilà, il avait souci d'être, mais elle avait une pochette, et tel que le personnage du roman, ça m'a beaucoup marqué, vous voyez, donc 40 ans après, je m'en souviens.
Exercer une fonction papale, serait-ce fatigant?
Ah oui, je pense que c'est le pire métier de la Terre, c'est sans doute le plus sublime. Avec l'histoire écrasante que vous avez sur vos épaules, non seulement l'histoire, mais le présent de l'Église, tous ces croyants pour qui vous êtes un repère, une boussole, et c'est écrasant parce qu'en même temps, vous ne vous appartenez plus du tout. Vous devenez l'homme qu'on écoute, l'homme qu'on regarde, l'homme qu'on implore, même parfois. Non, on ne s'appartient plus du tout. Je crois que c'est pire qu'un Premier ministre ou qu'un président de la République ou qu'un roi. Je crois que c'est vraiment être pape, c'est du matin au soir avoir conscience de porter sur ses épaules non seulement le monde des catholiques, mais le monde entier, parce que vous êtes aussi une instance morale, entre guillemets. Je dirais plutôt une instance spirituelle dont le soft power, dont l'influence est considérable, malgré tout. Vous savez, la phrase de Staline, le pape, combien de divisions? Il se moquait en disant, mais l'état du Vatican, c'est pas grand-chose. Et le pape ne dirige pas des divisions. Il est un éveilleur de conscience. Il s'adresse à des consciences. Catholiques, bien sûr, mais pas seulement. Et ce pape François, notamment, on peut lui reconnaître cette qualité d'avoir su parler, bien sûr, aux catholiques, mais aussi à ceux qui ne le sont pas. Je pense à Laudato si, par exemple, qui a été une encyclique, un best-seller extraordinaire, et donc qui est bien la preuve qu'il a su rejoindre des tas de gens en évoquant une préoccupation partagée par l'immensité. Et donc, être une conscience, je crois que c'est quand même une responsabilité énorme, et donc je pense que l'assumer, c'est vraiment à la fois une épreuve, mais un bonheur. Et là encore, le pape François montre, par sa manière d'être, en tout cas ce qu'il apparaît quand nous le voyons, c'est-à-dire une certaine joie, une joie d'être pape. Certains de ses prédécesseurs ont le plus de peine à témoigner de cela. Lui, vraiment, il a cette joie-là, et je pense que ça aide aussi à transmettre le message de l'Église.
Elle tient son côté plus extraverti.
Oui.
On voit qu'il aime les gens.
Oui. Alors, les mauvaises langues diront... c'est un Argentin, il a été marqué par ce qu'on appelle le populisme péroniste, c'est-à-dire cette sacralisation, d'une certaine manière, du peuple. Voilà. Et le peuple a toujours raison, d'une certaine manière. Donc ça, on l'entend dire ça. Hein. Ça fait partie du débat autour du style de gouvernement du pape François. Hein. Mais je crois qu'il y a aussi chez lui... Je crois qu'il y a eu une sorte de conversion aux petites gens. Je crois que c'est quelqu'un qui a eu une carrière phénoménale, puisqu'il a été responsable des jésuites d'Argentine à un âge très jeune. Ça ne s'est pas très bien passé. C'était au moment de la dictature. Il en a subi des conséquences dans sa vie, puisqu'il a été après, je dirais pas sanctionné, en tout cas écarté des autorités, de la responsabilité des jésuites, et il s'est retrouvé en pleine pampa à être confesseur dans une région un peu reculée, faut quand même dire les choses. Et je crois qu'il a vécu là à la fois un temps d'humiliation qu'il a peut-être transformé en école d'humilité. Voilà. Et je crois que ça, d'une certaine manière, ça pèse dans la psychologie du pape François, et que cette attention aux petits, aux pauvres, aux réprouvés, aux oubliés, est liée aussi par une expérience charnelle. Voilà, une expérience personnelle qu'il a faite. On ne le dit pas assez. Enfin, moi, je suis très sensible à ça parce que je... Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup lu sur le pape François, j'ai beaucoup... Voilà, et c'est un personnage qui m'intéresse. Et je crois qu'on ne peut pas expliquer ce goût de l'autre, et notamment de l'autre qui est brimé, de l'autre qui est ignoré, en revisitant cette part sombre de sa vie.
Alors qu'on évoque habituellement le fait qu'il ait connu une forme d'immigration.
Aussi, mais d'une certaine manière, il en a récolté les fruits, je dirais. C'est plus ses parents qui étaient migrants. Lui, il est pleinement argentin, et il est très fier de l'être, et très porniero, comme on dit, habitant de Buenos Aires. Hein. Il a vécu toute sa vie à Buenos Aires, il était archevêque à Buenos Aires. Enfin, c'est vraiment un citadin, un urbain. Mais Buenos Aires, c'est une ville, j'allais dire, c'est une ville sociétale. C'est énorme. J'ai eu la chance d'y aller. C'est une ville incroyable. Et il va y aller. Apparemment, il a même dit qu'il avait très envie d'y retourner. On peut le comprendre. Le terme de sa vie approche, et je pense que l'appel des racines est très important, et c'est très émouvant d'ailleurs. Ça sera un grand voyage, si le bon Dieu lui permet de le faire, mais je pense que c'est... Oui, c'est un homme qui... Il y avait un poète qui disait devenir quelqu'un, devenir un homme, une femme, c'est laisser croître les racines de son sourire. Le sourire a des racines. Et je pense que le pape François, d'une certaine manière, cultive cela. Il nous rappelle souvent, il évoque sa grand-mère, il évoque sa vie de famille, il évoque sa vie en Argentine, très souvent, non pas par nostalgie, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit nostalgique, mais par quelqu'un qui entretient, qui cultive des racines qui lui ont permis de devenir ce qu'il est.
Michel Cole, vous évoquiez vos débuts au Vatican et le souvenir bien palpable de ce concile Vatican II. Comment envisagez-vous maintenant le fameux synode sur la synodalité? Y retrouvez-vous l'enthousiasme de vos débuts?
Je trouve que le synode, c'est une forme de prolongation du Concile Vatican II, par d'autres moyens. Il est évident que le synode, statutairement, n'a pas la même autorité qu'un concile. Donc tous ceux qui attendent, peut-être, moi aussi d'ailleurs j'attends, je dis tous ceux, je fais partie de ceux-là, mais qui attendent des résultats, des nouveautés, des innovations, on risque d'être un peu peut-être sur notre faim, parce que ce n'est pas la vocation d'un synode de prendre des décisions, je dirais, formelles, précises. C'est plutôt, je dirais, un processus qui est engagé, un processus permettant aux catholiques, enfin, de pouvoir échanger entre eux, de mettre sur la table leurs divergences, leurs convergences, et de chercher des solutions ensemble, et de sortir des guerres de tranchées. Je pense que c'est l'obsession du pape François, c'est-à-dire faire en sorte que l'Église sorte de ce clivage qui perdure depuis, en particulier depuis le Vatican II, pour vraiment regarder les réalités en face, obéir au réel, mais aussi obéir au Saint-Esprit. Il y a deux obéissances, obéir au réel et obéir au Saint-Esprit, mais c'est peut-être la même obéissance d'ailleurs, parce que le Saint-Esprit s'exprime dans la vie du monde, il n'est pas dans les airs. Mais c'est de discerner les voies qui permettent à l'Église d'être plus libre, d'être plus heureuse, d'être plus de retrouver cette liberté évangélique que j'appelle la liberté de l'enfance, pour pouvoir vraiment mettre toute son énergie dans l'annonce de Jésus-Christ, dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qui en a bien besoin, parce que nous traversons une époque historique un peu sombre, où les nuages s'accumulent, et vraiment le témoignage chrétien de l'Église doit retentir aujourd'hui, mais surtout il doit être audible et crédible. Donc il faut inventer de nouvelles manières de parler de l'Évangile et de le donner envie à d'autres de la connaître. Je crois que c'est ça le synode, c'est un processus de sortie, de sortie de nos débats internes, où on ne s'en sort plus, pour vraiment retrouver l'envie, le dynamisme d'aller aux périphéries, comme disait le pape François, comme dit le pape François.
Votre personnage, le pape Jean-Baptiste Volterra, que vous présentez comme un successeur du pape François, votre personnage donc se montre favorable à une laïcité positive. De quoi s'agit-il exactement ?
Oh, alors là, pour moi, c'est très simple. C'est de considérer que la laïcité est peut-être une chance pour l'Église plutôt qu'une entrave. Alors, quand je dis ça, je ne parle pas du laïcisme. Je parle de la séparation des pouvoirs, comme on disait. Il y a l'Église et il y a l'État, et l'un et l'autre n'ont pas à se mélanger. Et chacun ses responsabilités. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est très laïque, ça, cette citation du Christ. Non, c'est vraiment de... de concevoir cette société où nous vivons, qui est sécularisée, qui est pluraliste, il y a différentes religions, il y a des gens qui croient pas, il y a voilà, des courants d'opinion très différents, très différents. C'est de pouvoir y contribuer sans se renier, de manière active et positive. C'est-à-dire, j'ai l'impression que parfois, les catholiques se présentent de manière, on dirait que ce sont des empêcheurs de tourner, enfin, on dirait qu'on tourne en rond, qu'on ne facilite pas, je dirais, la résolution de conflits, ou trouver des solutions. Pensons que parfois, les catholiques sont encore sur la défensive, et veulent défendre leur citadelle. Je pense que ça, c'est voué à l'échec, et que, en plus, ça va encore plus nous marginaliser dans une société qui tend à privatiser le religieux. Je pense que il faut être, pas avoir peur de la laïcité, et il faut être capable aujourd'hui d'être positif, ce qui veut être un facilitateur. Voilà, je cherchais mon mot, un facilitateur de propositions, de solutions qui n'intéressent pas que la communauté catholique, mais qui intéressent toute la société. Nous n'avons pas à parler qu'entre nous. Nous avons aussi à proposer des choses dans la société. Et quand je relis l'Évangile, je suis fasciné par cela. Jésus, il ne parle pas qu'à ses 12. Il parle à des tas de gens qui sont très très loin de lui, qui sont contre lui même. Mais il leur parle. Alors en parabole, il leur parle. Il invente des manières de dire et des manières de faire qui permettent de toucher l'attention et le cœur des autres. Et je crois que c'est le meilleur exemple qu'on peut avoir. À nous d'inventer, au XXIe siècle, des manières de rejoindre les préoccupations de nos contemporains. Et l'Église la retrouvera, son audience, sa crédibilité, et retrouvera peut-être aussi son attractivité.
À côté de vos nombreuses attributions, Michel Cole, vous avez également été éditeur, et notamment éditeur du dernier livre à ce jour, du cardinal de Kessel. Racontez-nous un peu.
Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Vous aviez vraiment envie le cardinal vous un livre. Oui. Je crois qu'il y avait un côté rêve d'enfant dans ce projet.
Oh, je ne sais pas rêve d'enfant, mais en tout cas, c'est une belle histoire, parce que finalement, comme tout journaliste que je suis resté, mais comme tout éditeur qui se respecte, je suis à l'affût, je regarde ce que font des responsables d'église, des responsables politiques, des auteurs, on lit, on... Voilà. Puis un jour, je suis tombé sur une homélie de Joseph de Kessel, que j'ai trouvé admirable, où justement, il insistait sur le fait qu'on avait l'impression parfois, quand les catholiques parlaient, que Dieu avait déserté le monde. Et dans cette homélie, il insistait lourdement, excusez l'expression, je veux dire, il insistait sur le fait que Dieu est dans le monde. Ne le cherchez pas ailleurs, il est là. Mais il faut le trouver, il faut le chercher. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était une homélie de Pâques. J'ai trouvé cette homélie très très belle. Et quand moi j'ai un coup de cœur comme ça, j'ai envie de rencontrer les gens. Donc à ce moment-là, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien vous rencontrer. Et puis voilà, il m'a invité. Et ce fut une belle rencontre, et toutes les rencontres que j'ai vécues avec Joseph de Kessel ont été toujours des rencontres très agréables, très amicales. C'est un homme qui d'une certaine manière aussi, pour moi, l'incarnation de ce don de soi par l'effacement. Voilà. Moi, je suis très touché par la qualité humaine de ces personnages qui sont souvent mis en premier plan, qui sont des responsables importants, qui ont de lourdes responsabilités, et qui n'en demeurent pas moins des gens humbles, de proximité, accessibles. Voilà. Et moi j'étais très touché, on devait se voir, la première fois où on s'est vu, on devait se voir, je sais pas, l'audience devait durer une demi-heure, et elle a duré presque 2 heures, et j'ai failli rater mon train pour Bruxelles. Et je me suis dit, super, c'est chouette, là, il y a une belle rencontre.
Quelles ont été les réactions à la publication de votre livre, L'échappée belle du pape?
Mon épouse m'avait dit, tu vas voir, ça va marcher. Moi, je suis toujours très sceptique sur ce type de prémonition. Je suis toujours très peu indulgent avec moi-même, donc j'étais plutôt en train de me dire, oh là là, puis c'est le premier. Bon. Il se trouve qu'apparemment, oui, les lecteurs lui réservent un très bon accueil, bon, alors ça me fait très plaisir, mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est la joie qu'il distille chez les gens, ce qu'ils m'écrivent, parce que les gens m'envoient des messages par Facebook ou m'écrivent, et ce qu'ils me disent, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous m'avez fait du bien, vous m'avez réconforté, vous m'avez amusé, j'ai ri, et en même temps j'ai approfondi des choses. Parce que je crois qu'un roman, c'est un peu comme une cour de récréation, finalement. On se distrait, mais on apprend les choses de la vie. Quand on est petit, quand on est parlé de l'esprit d'enfance, tout à l'heure, c'est un thème qui m'est cher. La cour de récréation, pour moi, c'est ça. Je me revois jouer avec mes camarades, mais je sais aussi que j'ai appris des choses sur la relation humaine, sur plein de choses comme ça. Et je crois qu'un roman peut être conçu comme ça, comme une sorte de cour de récréation. On se distrait, et en même temps, on approfondit, on réfléchit. Voilà, c'est ça, c'est la beauté d'un roman, ça.
Et le carême, le printemps, quels sont vos projets, Michel Cole?
Mes projets, ça va être me remettre sur le métier, puisque j'ai un projet d'ouvrage complètement différent de celui-là. Et je vais vous dire quelque chose, je vais devoir un peu mordre sur ma chic, parce que j'avais très envie de réécrire un roman. Voilà, parce que la main me démange. Et puis poussé par les lecteurs qui me disent, est-ce que vous allez faire une suite, ou est-ce que vous allez... écrire une nouvelle fiction, et là, un éditeur m'a fait une commande, qui est tout à fait différente, et j'ai accepté, parce que le sujet est tout à fait digne d'intérêt, et me passionne en plus, mais du coup, je vais devoir différer, et ça va être mon carême, je vais devoir différer le plaisir que j'avais envisagé d'écrire un nouveau roman, je vais devoir attendre un peu.
Eh bien, Michel Cole, merci pour cette confidence. L'échappée belle du pape a été publiée aux éditions Quasar. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre.